L'Iran annonce que la question syrienne sera au centre du sommet trilatéral de Téhéran. Un drone de l'armée turque a frappé lundi le quartier général conjoint de l'armée syrienne et des FTS à Tal Rifat et Al-Sharpa dans le nord de la Syrie. Et l'Algérie et l'Italie conviennent de renforcer leur coopération énergétique. C'étaient les principaux titres. En voici le journal. Les questions entourant la Syrie seront à l'ordre du jour du sommet trilatéral de Téhéran, qui aura lieu mardi 19 juillet à Téhéran, a déclaré lundi le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian. Nous essaierons de stabiliser l'objectif important du processus d'Astana, qui était de réduire les tensions dans les zones de conflit en Syrie, a précisé M. Amir Abdollahian avant une réunion imminente des présidents iraniens, turcs et russes dans la capitale iranienne, Téhéran. Lors de mon récent voyage à Ankara et à Damas, j'ai transmis le message du président iranien selon lequel la crise sécuritaire entre la Turquie et la Syrie peut être gérée, a poursuivi le chef de la diplomatie iranienne. La Turquie parle de la possibilité d'une coopération militaire jusqu'à 30 km à l'intérieur des frontières syriennes et nous avons essayé de résoudre politiquement cette crise et les préoccupations de sécurité de la Turquie, a-t-il encore ajouté. En outre, le retour des réfugiés syriens dans leur foyer et l'aide à la paix, à la stabilité et à la sécurité en Syrie font partie des sujets qui seront abordés lors de la réunion, a précisé le ministre iranien des Affaires étrangères. Le sommet de Téhéran réunira le président russe Vladimir Poutine, le président turc Recep Tayyip Erdogan et le président iranien Ebrahim Raisi en tant que dirigeants des pays garants du processus d'Astana, initié en 2017 pour la paix en Syrie. Un drone de l'armée turque a frappé lundi 18 juillet le quartier général conjoint de l'armée syrienne et des milices kurdes et d'autres positions à Tal Rifat et à Al-Sharpa dans le nord de la Syrie. L'attaque n'a pas fait victime humaine et n'a causé que des dégâts matériels. La frappe turque s'est produite alors que les coopérations militaires entre l'armée syrienne et les milices kurdes se sont intensifiées la semaine dernière, notamment par l'envoi de 300 soldats de l'armée syrienne ainsi que 6 chars et un hélicoptère vers la ville de Manbij. D'ailleurs, l'agence de presse officielle syrienne Sana a rapporté lundi que les unités de l'armée syrienne avaient renforcé leur position dans les deux villes d'Ain Issa, au nord de la province de Raqqa, et d'Ain al-Arab, Kobani, au nord de la province d'Alep, les deux villes surplombant la frontière avec la Turquie. Plus tôt, le 16 juillet, des sources officielles syriennes ont rapporté que Damas et la milice turque, FTS, sont sur le point de former une salle d'opération conjointe contre d'éventuelles attaques turques, et ce avec la médiation de la Russie. Le premier ministre du gouvernement de salut national yéménite a souligné que le Yémen avait le dernier mot sur le détroit de Bab el-Mandeb pour préserver l'identité arabe de la mer Rouge contre la conspiration américaine. Abdelaziz Ben Abdour, le premier ministre du gouvernement de salut national du Yémen, a souligné le lundi 18 juillet que les ennemis ne s'attendaient pas à ce que le peuple yéménite puisse résister pendant 7 ans et que les institutions gouvernementales restent intactes. Les ennemis pensaient que le Yémen serait une proie facile et qu'ils seraient en mesure de mettre fin à cette guerre en leur faveur, a encore ajouté Ben Abdour. Il a déclaré qu'au cours de la 8e année de cette guerre, le Yémen était devenu plus unifié et plus puissant que jamais. Ben Abdour, évoquant la récente réunion à Jeddah, a précisé que les ennemis ont tenté de faire passer la guerre contre le Yémen pour une guerre civile et de dissimuler la réalité de leur agression brutale. Le Yémen a le dernier mot sur le détroit de Bab el-Mandeb afin de préserver l'identité arabe de la mer Rouge contre le complot américain, a ponctué M. Ben Abdour avant de souligner. Bab el-Mandeb est un point de passage international, mais il fait partie des terres yéménites. Nous ne permettrons pas que la mer Rouge se transforme en un lac israélien. Le président français Emmanuel Macron a rencontré lundi à Paris le président des Émirats arabes unis, Mohamed Ben Zayed al-Nahyan, actuellement en visite en France. Les deux dirigeants ont discuté notamment de la coopération dans le secteur de l'énergie. Dans un contexte de la hausse vertigineuse des prix des carburants, la France cherche à diversifier ses sources d'approvisionnement en énergie. Au cours de la visite du président émirati en France, le géant français Total et la compagnie pétrolière nationale des Émirats arabes unis ADNOC ont signé lundi un accord de coopération dans le domaine de l'énergie, ont rapporté des médias français. Cet accord permettra de créer un cadre stable de long terme pour la coopération énergétique entre les deux pays, ont indiqué des médias en citant une source du gouvernement français. Les exportations énergétiques des Émirats arabes unis vers la France ont atteint 1,5 milliard d'euros en 2019, dont la plupart sont des produits pétroliers raffinés. Mohamed Ben Zayed Al Nahyan est arrivé à Paris le 17 juillet pour sa première visite d'État à l'étranger depuis sa prise de fonction. L'Azerbaïdjan et l'Union européenne ont signé lundi un nouveau protocole d'accord sur un partenariat stratégique dans le domaine de l'énergie. Partenariat qui doit permettre de doubler l'approvisionnement en gaz de l'Azerbaïdjan vers l'Europe à l'horizon 2027. Signé par le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev et par la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen en visite en Azerbaïdjan, cet accord garantit des approvisionnements alternatifs en gaz à l'Europe alors que les parties s'efforcent de travailler collectivement pour assurer une livraison stable et prévisible de gaz naturel à l'Union européenne. S'exprimant à l'issue de la cérémonie de signature, M. Aliyev a salué la coopération énergétique entre l'Azerbaïdjan et l'Union européenne, selon un communiqué publié sur le site internet officiel du président azerbaïdjanais. Mme von der Leyen a déclaré qu'avec ce nouveau protocole d'accord, les parties s'engageaient à l'expansion du projet de corridor gazier sud-européen. Dans le cadre de ce protocole d'accord, l'Azerbaïdjan et l'Union européenne souhaitent aussi soutenir le commerce bilatéral de gaz naturel, y compris par le biais d'exportations vers l'Union européenne via le corridor gazier sud-européen d'au moins 20 milliards de mètres cubes par an d'ici 2017, en fonction de la viabilité commerciale de la demande du marché. Cet accord permet également de poser les bases de la collaboration entre l'Azerbaïdjan et l'Union européenne dans les domaines des énergies renouvelables et de fixer les engagements des deux parties dans la réduction des émissions de méthane. Alger et Rome ont signé lundi un total de 15 accords de coopération et mémorandums d'entente, dont un accord portant sur la livraison du gaz naturel algérien au profit de l'Italie. La signature de ces accords intervient dans le cadre de la visite d'une journée effectuée lundi à Alger par le Premier ministre italien Mario Draghi. Les deux parties ont signé des mémorandums d'entente dans les domaines de l'artisanat, des industries pharmaceutiques, de l'entrepreneuriat, du développement des investissements, de la prévention et de la lutte contre la corruption, des travaux publics, des start-up, de la coopération industrielle et énergétique, des énergies renouvelables, du développement social et de la solidarité. Un accord de coopération dans le domaine de la protection du patrimoine historique et culturel, un protocole de coopération dans le secteur de la justice et une déclaration d'intention dans les domaines de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la coopération diplomatique ont également été parfaits. Le président Tebboune a déclaré aux journalistes qu'un important accord sera signé également mardi avec les compagnies occidentales, Eni et Total, d'un montant de 4 milliards de dollars, qui permettra d'alimenter l'Italie en très grande quantité de gaz naturel. Il a par ailleurs renouvelé l'engagement de son pays à être l'un des fournisseurs d'énergie solaire renouvelable et d'électricité conventionnelle à l'Europe. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. Algérie. Pire découverte d'Israël. Selon les médias mainstream, il est prévu que le chef d'état-major israélien Aviv Keravi se rende au Maroc la semaine prochaine dans le cadre de la coopération croissante entre les deux pays ou d'une visite officielle d'un responsable militaire israélien dans le royaume. Les visites de responsables israéliens au Maroc se sont poursuivies depuis la reprise des relations en décembre 2020. Parmi les dirigeants israéliens qui se sont rendus dans le royaume figuraient le ministre de la guerre, Benny Gantz, en novembre, et la ministre israélienne de l'Intérieur, Eilat Shaked, en juin. Des partenariats ont été signés entre les deux parties dans les domaines technologiques, sécuritaires, militaires, économiques et culturels. Ceci est le devant du décor, mais qu'en est-il de l'arrière-décor? Pourquoi Keravi se rend-il précipitamment au Maroc si tout se passe bien, comme le prétend la presse à la solde? En effet, après la retentissante défaite de l'OTAN moyen-orientale, Le sioniste semble vouloir chercher au Maghreb une consolation, surtout qu'il est sur le point de départ pour l'ensemble de ses déculottés face à la résistance. Mais a-t-il choisi le bon moment et surtout le bon endroit? Selon des sources maghrébines, Rabat n'a pas été trop à l'aise à répondre oui à l'entité quand celle-ci lui aurait demandé de faire partie d'une coalition anti-résistance à vocation navale, surtout que cette résistance semble, depuis la parade du 60e anniversaire de l'indépendance algérienne, avoir pleinement fait son entrée au Maghreb avec un Hamas assistant littéralement à la cérémonie militaire. Au fait, Israël s'est actif ces derniers temps à Dakhla, cette zone ultra-stratégique située à deux pas de Sahara qui a une côte sur l'Atlantique et que convoite l'Amérique pour y installer une base navale. Peut-il espérer un jour pouvoir créer une DSA intégrée en Méditerranée occidentale? L'Algérie s'est rapprochée militairement de la Russie, ce qui lui a permis d'acquérir des sous-marins capables de lancer des missiles et des missiles calibre capables d'atteindre Madrid depuis la Méditerranée, ainsi que des missiles Iskander et des avions russes de 5e génération. L'Algérie est le seul pays de la région méditerranéenne en dehors de l'occupation israélienne qui a la capacité de lancer des missiles offensifs à partir d'un sous-marin. En effet, les sous-marins du type Kilo, équipés de missiles de croisière calibre qui peuvent être tirés en immersion, donnent à la marine algérienne la capacité de paralyser ses ennemis. Alors, pour une entité qui s'apprête sous prétexte sanitaire à débarquer à Dakhla, c'est toujours une source d'inquiétude. C'est s'engager sur des sables mouvants.